Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de cette émission au Capi Service. Comment lutter efficacement contre l'esclavage sexuel? Nous en parlons avec Patrice Vard, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et maître Gisèle Kapinga-Ntumba, commissaire nationale en charge de droits de la femme et de l'enfant à la Commission nationale de droits de l'homme. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce studio de Radio Capi.
Bonjour.
Vous voulez participer à cette émission, composez le 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook au Capi Service. Sylvain Baoguéré met en onde cette émission, Esther Mamboté assure le live sur nos plateformes digitales et Benjamin Moudoumbi Tichik Iboula la réalise. Jeudi, Daniel Kachama est à la coordination sous la supervision de Jean-Marc Matouaki à la présentation, Jocelyne Moussaopondé.
Au Capi Service, pour participer à l'émission, 081 890 63 94 par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiocapi.com.
Les violences sexuelles liées au conflit, dont le viol collectif, l'esclavage sexuel, les mariages forcés et les grossesses forcées, sont utilisées comme armes de guerre et de domination dans l'est de la RDC. Par ailleurs, les enfants nés des viols sont particulièrement vulnérables. Absence d'enregistrement, exclusion affective et scolaire, stigmatisation, vide juridique sur la question. Les mécanismes de prévention et de protection restent insuffisants malgré les efforts du gouvernement congolais et de ses partenaires. C'est ce qui a motivé le lancement d'une campagne contre l'esclavage sexuel et le phénomène des enfants nés du viol dans les conflits armés en RDC. C'était à l'occasion d'un panel de haut niveau organisé le lundi 9 mars dernier par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Kinshasa. Quelle stratégie efficace mettre en place pour une lutte efficace contre l'esclavage sexuel et les phénomènes des enfants nés du viol? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités, Monsieur Patrice Vard. La première question vous revient.
Oui.
Quelle stratégie efficace mettre en place pour une lutte efficace contre l'esclavage sexuel et les phénomènes des enfants nés du viol?
Tout à fait. Je voudrais en tout cas remercier et saluer les auditeurs de Radio Capi. Je vois que vous êtes suivis à travers le monde entier. C'est une radio dont nous sommes tous fiers, au service de la paix. Notre rapport, en fait, c'est une note de plaidoyer, je dois le préciser, parce que c'est un appel à l'action. Je crois que la situation est suffisamment préoccupante. Lorsqu'il est sorti, ça a choqué plusieurs. Nous avons reçu des milliers de témoignages. Mais ce qui fera la différence, ce sont les actions concrètes qui peuvent être prises. Et donc, votre question vient à bon propos. Nous avons adressé un appel à l'action à 9 entités, si vous permettez. D'abord, aux autorités nationales, parce que c'est la responsabilité de protéger un incombe à titre principal à l'État. Mais également, nous avons adressé des recommandations aux groupes armés. Notre rapport révèle, malheureusement, que c'est un outil de guerre, un instrument de guerre qui est utilisé par les groupes armés. Ensuite, aux acteurs de processus de paix, il est important que l'espoir que représentent les accords de Washington et ceux de Doha se traduisent concrètement par des actes qui changent positivement la vie des femmes qui sont condamnées à l'esclavage sexuel et émancipent les enfants du stigma à vie de cette situation de viol-là. Et nous nous adressons aussi aux populations hôtes. Il ne faut pas que les victimes souffrent doublement de cette situation qu'elles n'ont pas choisie. Et donc l'accueil, le fait de ne pas stigmatiser les victimes, de ne pas les conduire à devoir se justifier, est un acte assez important au niveau communautaire. Et enfin, nous en appelons à la communauté internationale. Notre rapport montre que la prise en charge est largement insuffisante et que donc il est important de soutenir les efforts du gouvernement, de soutenir les efforts de la société civile, de tous ces acteurs-là, de façon systématique pour que la prise en charge soit holistique. Donc, vous voyez, ce n'est pas un rapport qui est adressé à une seule catégorie, c'est un phénomène de société. Mm. C'est à la société de donner la réponse aux femmes et de dire aux enfants qu'ils appartiennent à une société qui dit non à cette forme de violence-là.
Et votre plaidoyer s'adresse à plusieurs groupes, comme vous l'avez dit. Et quelles sont vos attentes hein, par rapport à ces plaidoyers, les recommandations aux groupes armés, par exemple? À quoi vous attendez-vous?
Et pour les groupes armés
c'est qui très... utilisent oui, justement, ce phénomène c'est... comme arme de guerre, carrément.
Deux choses que nous avons demandées aux groupes armés. La première, c'est de libérer immédiatement ces femmes qu'ils prennent en captivité. Quand on les écoute, quand vous voyez à travers les réseaux sociaux, certains d'entre eux essaient de communiquer, ou bien quand ils engagent les communautés qu'ils assaillent, ils viennent avec un message de promesse de changer leur vie. Mais nous leur disons que commencer par changer leur vie, ça veut dire de ne pas prendre une femme en esclavage. Ce n'est pas humain, ça n'appartient plus à notre époque. Donc il faut qu'ils les libèrent immédiatement. La deuxième chose, c'est de cesser toute forme de violence. C'est vrai, souvent, vous verrez, il y a des débats sur les chiffres, il y a des débats de négation contre accusation, mais c'est tout simplement inacceptable pour un homme, aujourd'hui, de se réjouir et de vouloir se justifier de violences sexuelles ou bien d'abus contre la femme. Donc, s'ils ils ont d'autres agendas que ceux de violer les droits de ces femmes-là, eh bien, ce qu'on leur demande n'est pas du domaine de l'extraordinaire. Ils peuvent faire passer leur message sans avoir à obliger la femme à porter le prix de leur contradiction. Donc ça, c'est ce qu'on demande aux groupes armés. Deux choses claires pour lesquelles le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme va continuer le monitoring systématiquement et nous n'allons pas arrêter de dénoncer aussi longtemps il y a une seule femme qui continue de payer le lourd tribut d'une situation qui n'a fait que trop durer.
Maître Gisèle Kapinga, quelle est la lecture de la Commission nationale de droits de l'homme par rapport à cette situation sur le terrain?
Bon, nous déplorons. La Commission nationale des droits de l'homme fait des monitorings. Donc nous enquêtons, nous faisons la récolte des données.
Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît.
Nous faisons la récolte des données sur ces phénomènes violences sexuelles, enfants ici, des viols. Et nous avions l'année passée, avec l'appui de ONIFAM et de l'Union européenne, mené des enquêtes dans les trois provinces, Ituri, Kasaï, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu. Et cette année, l'année passée, donc l'année 2024, l'année 2025, nous avons été au Kasaï, à Kinshasa, donc dans cinq provinces. Et nous avons documenté 3417 cas de VBG. Et j'ai lu hein, quelque part que 40% des femmes de l'Est ont été violées. Et 17% de ces femmes ont eu des enfants issus des viols. Donc, violence sexuelle à l'Est, enfants issus des viols, c'est un phénomène qui dure il y a 30 ans ou plus de 30 ans depuis qu'on connaît des guerres d'agression. On n'en parlait pas, c'est une réalité, on n'en parlait pas trop. C'est vrai, on parle des violences sexuelles basées sur les genres, des violences sexuelles, mais le phénomène enfant ici, des viols, on n'en parle pas trop. Cette année, je vois avec les BCNIDH, il y a une campagne sur autour de ces sujets. Je trouve que c'est une bonne chose. Et nous, nous documentons. Non seulement nous documentons, nous avons dernièrement fait aussi des recommandations. Après avoir documenté, on a fait des recommandations et on a constaté qu'il y a ces problèmes d'impunité. Aussi longtemps qu'il y aura impunité, ces violences sexuelles, les enfants ici des viols, on en parlera toujours. Donc nous avons fait des plaidoyers auprès des ministres de la Justice, Sécurité intérieure, ministre de la Défense, pour qu'enfin on puisse s'asseoir et mettre fin à l'impunité. Pourquoi il y a impunité?
Mais quand vous parlez d'impunité, comment réagir? Comment le gouvernement peut réagir justement dans ce contexte de guerre? On a évoqué l'adresse du BCNUDH aux groupes armés, par exemple. Comment s'y prendre en ces temps?
C'est un défi parce qu'actuellement, par exemple, à l'Est, le Goma, Bukavu et ses environs, le gouvernement ne contrôle pas. Mais ça date d'une année. Mais l'impunité n'a pas commencé il y a une année. C'est vrai, là-bas, on a pillé les cours et tribunaux, c'est la justice populaire, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Mmh. Et en Ituri, le gouvernement a quand même est effectif. L'État congolais exerce ses pouvoirs à Ituri. Donc, nous, on a donné des recommandations pour que cesse l'impunité. Et pour qu'on applique les lois, ce n'est pas les lois sur les violences sexuelles qui manquent dans ces pays. Pour qu'on applique les lois, on a fait aussi des monitorings dans les cours des tribunaux pour voir dans les zones qui ne sont pas occupées comment nos magistrats, comment nos juges tranchent les dossiers de VBG. Mmh. Et là, on a trouvé aussi des problèmes. Donc, on a fait des recommandations pour qu'on puisse renforcer les capacités des juges, des magistrats sur les violences sexuelles, et aussi nous avons fait des recommandations pour que on puisse affecter des juges, des magistrats équitablement sur l'étendue de toute la République, parce que beaucoup sont concentrés ici à Kinshasa, alors qu'il y a des zones où il n'y a pas de tribunaux. Mmh. Il y a des tribunaux, mais il n'y a pas de juges. Et ça, c'est les problèmes d'accès à la justice. Ces victimes-là qui veulent porter plainte, où est-ce qu'ils vont partir? Donc, il y a ces problèmes-là d'affecter les magistrats équitablement dans toute la République pour que les victimes aient accès à la justice. Et aussi, vous avez dit qu'il y a des zones occupées. Nous, nos recommandations comme CNDH, c'est qu'il y ait le retour de la paix, qu'il y ait l'application de la résolution 2773 pour que ces groupes armés, pour que les pays qui les soutiennent puissent quitter notre pays. Parce que toutes ces femmes-là, nous avons fait plusieurs fois des monitorings dans les camps des déplacés, que ce soit à Ituri, Nord, Kivu, toutes ces femmes-là, elles demandent juste la paix.
La paix. Monsieur Patrice Vahard, en dehors de l'impunité évoquée par Maître Gisèle Kapinga, quels sont les autres facteurs qui permettent encore aujourd'hui à ces crimes d'être commis sur le sol congolais?
Madame, je me permets juste d'ajouter un point à la commissaire de la CNDH avant de répondre à votre question, la question de l'impunité. Je crois qu'il faut que nous disions la vérité à ceux qui choisissent de violer les droits des femmes. Et cette vérité-là, c'est que ces crimes ne vont pas rester impunis. C'est peut-être dans le temps que, de façon circonstancielle, ils ont une parcelle d'autorité et de violence, ils en ont le monopole, mais ces crimes, l'impunité ne sera pas la réponse réservée aux victimes. C'est ça qui est le plus important. Je me rappelle, j'étais allé à Bounia il y a une année et demie. Je suis allé dans le compartiment de la prison où les criminels les plus dangereux se retrouvent, mais où aussi certains des anciens groupes armés se retrouvaient. Je me suis adressé à eux pour leur dire clairement, retenez que ces crimes ne sont pas imprescriptibles. Sont imprescriptibles, ça veut dire que ceux qui vous envoient ou qui vous encouragent à violer, à brutaliser, vous avez une responsabilité personnelle et vous allez répondre de vos actes. Je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est que, quelle que soit la durée ou bien l'ampleur des difficultés dans ce pays, il n'y a pas d'alternative à l'état des droits. Nous devons conjuguer les efforts dans le sens d'asseoir l'autorité de la loi. Partout, systématiquement. L'anarchie est une alternative, mais je ne crois pas que ce soit le modèle de société que nous avons choisi aujourd'hui. Donc, c'est important de renforcer le retour de l'autorité, de renforcer surtout l'état de droit, comme elle l'a dit, à travers la réponse judiciaire est déterminante. Mais il faut plus que cela. En fait, il y a toute une action de l'ensemble de la communauté, en commençant par la famille elle-même. Mmh. Il y a des situations où même les femmes victimes ne savent pas qu'elles sont victimes. Mmh. Pourquoi ? Parce que je suis allé à Béni. Les femmes dans ces villages-là, eh bien, la communauté pense que c'est bien d'être l'épouse, entre guillemets, d'un seigneur de guerre parce qu'elle revient à la maison, compte tenu de la situation de pauvreté absolue, avec quelques petits vivres. Il faut qu'on les sensibilise pour dire que ce n'est pas la réponse de la société moderne. Ça. Mmh. On ne peut pas. Le consentement est requis. Quelqu'un ne peut pas, parce qu'il détient des armes, à servir la femme, mmh, et dans le silence de la communauté. Donc il y a un travail de sensibilisation, parce que la grande difficulté que nous avons, c'est le rapportage de ces situations-là. Le silence d'abord, parce que la femme a peur de perdre son statut dans la société, mmh, mais mieux parce que les gens pensent que c'est un privilège que d'être vu à côté d'un seigneur de guerre. Mmh. Ça ne l'est pas. Mmh. Il faut que ça soit clair, que la communauté commence à accepter et à célébrer la bravoure de ces femmes qui réussissent à sortir des griffes de ces criminels de guerre-là, plutôt que de les voir un peu comme des extraterrestres ou bien des gens qui doivent s'expliquer. Donc, le travail communautaire, madame, pour moi, c'est déterminant. C'est pour ça que j'insiste sur cet appel-là. L'État va faire tout, mais en fait, c'est une entité au sein de laquelle vous et moi, nous tous, de façon basique, on crée un climat d'acceptation déjà. Je crois que c'est déterminant. C'est la conjugaison de tous ces éléments-là, mmh, qui fera qu'ensemble, nous pourrons dire que les cas de viol, d'esclavage sexuel ont substantivement diminué et que les victimes de ça, ou bien les enfants qui en sont issus, ne soient pas stigmatisés, mais plutôt on les appelle les enfants de la résilience, qu'on voit que c'est une société qui les accueille et qui leur donne une autre chance de vie.
Je vous redonne la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre quelques auditeurs en ligne. Gentil Bassekwamba nous appelle depuis Kananga, au Kasaï central. Bonjour, Gentil Bassekwamba.
Oui, bonjour madame Joseline Moussao, bonjour aussi aux invités.
Quel est votre...
Je dois juste poser quelques questions.
Allez-y. Mm-hmm.
Je dois seulement poser quelques questions vraiment par rapport à ce sujet. Mm. Premièrement, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés qui empêchent une lutte efficace contre l'esclavage sexuel dans l'Est de la République démocratique du Congo? Deuxièmement, quelles mesures concrètes peuvent être prises pour protéger les femmes et les filles dans les zones touchées par les conflits? Troisièmement, que peut faire l'État pour protéger les enfants nés du viol et éviter leur exclusion sociale? Quatrièmement, comment renforcer la justice pour que les acteurs de ces crimes ne restent plus impunis? Je voudrais aussi poser une autre question. Que peut faire la loi lorsqu'un homme met enceinte la fille d'autrui et prend la fuite vers une autre ville en laissant la jeune fille souffrir seule avec la grossesse? Quelle démarche la famille peut-elle entreprendre pour que cet homme assume ses responsabilités selon la loi en République démocratique du Congo? Pour terminer...
Merci, gentil Bassekwamba, parce qu'il faut laisser le temps... aux invités de noter vos questions et de répondre.
C'est un combat pour la dignité humaine. S'il vous plaît, que je termine. Hein,
allez-y.
C'est la conclusion.
Oui.
Oui, oui. Je pense que la lutte contre l'esclavage sexuel, c'est un combat pour la dignité humaine. Il est important que l'État, les organisations internationales et la société travaillent ensemble pour protéger les victimes et garantir l'avenir digne aux enfants nés de ces violences. Merci. Mmh.
Merci beaucoup, Gentil Bassekwamba, depuis Kananga, au Kasaï central. Nous prenons l'appel de Omar Kigalou, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Omar.
Bonjour, madame, je suis né. Bonjour aux invités. Mmh.
Allez-y, on vous écoute pour votre contribution et vos questions.
Merci beaucoup, Madame Jolcine, du genre que vous m'adjugez. Le sujet est très sensible. Voilà des vraies thématiques qui doivent faire l'objet des débats et de parler naturellement des constitutions qu'il faut changer. Voilà des thèmes.
Merci.
La première préoccupation est liée, merci madame, liée au cas des femmes victimes de violences sexuelles et qui sont grosses. Il y a une proposition ou une solution qui a été proposée par la Convention de Maputo. C'est une convention africaine à laquelle la RDC a adhéré. L'article 14 de cette convention permet à une femme enceinte d'une à l'issue d'une violence sexuelle d'avorter. L'avortement de manière principale est interdit, mais une femme qui est victime d'une grossesse non désirée obtenue par un viol peut avorter. Imaginez, pendant ces crimes de guerre, il y a des militaires véreux qui obligent un père à coucher avec sa propre fille, ou encore un frère à coucher avec sa propre sœur. Si par hasard la grossesse poursuit, une telle femme a le droit d'avorter parce que qui peut supporter d'élever un enfant ici d'un viol et qui puis avec son frère. C'est juste l'information à l'égard des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ont ces cas, qui ne savent pas que faire. Une autre question, je suis d'accord avec les invités, Madame Jocelyne. La cause majeure, c'est l'impunité. Et j'ai dit encore l'impunité. Parce que parmi ces auteurs de viol, il y en a qui sont ministres aujourd'hui, il y en a qui sont députés, il y en a qui se la coulent tous, les anciens rebelles qui n'ont jamais été punis. Un excès de la mémoire des victimes. Il y a des textes, ça ne manque pas. Nous avons ratifié les statuts de Rome sur la Cour pénale internationale, fait des viols, les crimes de guerre. On a en commun les crimes pénales militaires. On a même la loi de 2006 sur la violence sexuelle. Elle doit apporter trois innovations majeures. La première est qu'il y a les défauts de la qualité officielle. Aujourd'hui, quiconque commet les viols, surtout en temps de guerre, peu importe son statut, peut être sanctionné. Il n'y a pas d'immunité en matière de viol. C'est la première innovation. Deuxième innovation, la célérité. En matière de violences sexuelles, le délai maximum, c'est 3 mois. On ne peut pas instruire un dossier au parquet ou au tribunal plus de 3 mois en matière de viols. Et l'innovation encore très importante est l'imprescriptibilité. Aujourd'hui, les viols sont devenus imprescriptibles. On ne peut plus dire l'état est passé. Même après 20 ans, on vous procède. Voilà pourquoi moi je propose, parce qu'on demande qu'est-ce faire pour que ça finisse, il faut qu'on sanctionne. Dans les pays où il y a les conflits armés, que l'État fasse un effort de rétablir la paix et de sanctionner. Parce que, madame, ça fait mal. On ne s'est pas sanctionné. On ne s'est pas condamné. Les gens se la coulent tous. Et si on ne sanctionne pas, c'est qu'il y a exactement un problème. On doit sanctionner les auteurs de ces viols car la sanction a une fonction dissuasive. Et aussi dans les pays à conflit armé, il y a même un mécanisme de la CPI. Nous avons adhéré à la CPI. Dans les statuts de Rome, on peut saisir les procureurs de la CPI et mettre la main sur ces gens même avec la coopération internationale. Je suis d'accord avec les invités à sanction. La CNDH, par exemple, chaque année, fait des rapports annuels sur les violations des droits de l'homme. Chaque année. Elle transmet ses rapports à la présidence, à la primature ou deux chambres du Parlement. Qu'est-ce qu'on en fait? Chaque année, il y a des cas de violation. Il y a un problème de complaisance, de punité. Si ça continue ainsi, on aura toujours des cas de violence sexuelle. Merci beaucoup, madame Jocelyne.
Merci, monsieur Omar Kigalou, depuis Kinshasa. Merci à vous également, gentil Bassekwamba, depuis Kananga, au Kasaï central. Monsieur Patrice Var, comment vous répondez à nos auditeurs qui ont posé leurs questions? Gentil a parlé de difficultés pour une lutte efficace contre ces violences.
Madame, vous observez avec moi que les deux premiers intervenants sont des hommes. Je le salue parce que je crois, en tant qu'homme, que cette thématique nous interpelle d'abord en tant qu'homme. C'est un fait de société. C'est nous qui devons porter le stigma et la honte de ce que nous sommes contemporains à une situation qui n'appartient plus à notre époque. Donc je voudrais les saluer. Surtout que nous sommes aussi dans le pays de la masculinité positive. Je crois que ce n'est pas un slogan. Les auditeurs sont dans ce sens. Je voudrais véritablement encourager tous les hommes, quel que soit leur âge, de l'école primaire jusqu'au poste de responsabilité, à s'approprier ce travail-là. C'est important. C'est important et si les femmes se sentent soutenues, en ce moment-là, la différence pourra être faite. Le premier, il a gentil à poser la question de savoir. Il a plusieurs questions en même temps. Mmh. Je vais juste résumer pour dire que ce qui peut être fait, déjà, c'est depuis sa position à Kananga, il peut faire quelque chose. Il ne faut pas toujours regarder seulement l'État ou bien les autorités. C'est une responsabilité collective. Il peut déjà, nous avons initié cette campagne en collaboration avec l'appui du gouvernement, le ministère du genre, la CNDH fait partie, toute la famille des Nations Unies. Mais ça ne suffira jamais, ça ne va pas remplacer le travail que chacun et chacune peut faire au niveau communautaire. Donc je voudrais les inviter à ne pas seulement poser des questions à la CNDH sur ce qu'elle peut faire, mais que chacun d'entre nous dise, voici ce que j'ai fait. Devant l'histoire, voici ma contribution. Par exemple, j'ai dénoncé ou je me suis abstenu d'être complice ou de participer à cela. Mmh. Qu'est-ce qui peut être fait? La lutte contre l'impunité, je combine la deuxième question dans l'intérêt du temps, certainement il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Il faut, je suis très bien placé pour le reconnaître parce que nous travaillons, les Nations Unies, le BCNUDH en particulier, avec l'autorité judiciaire. La justice militaire congolaise fait preuve d'exemple et d'exemplarité en matière de lutte contre l'impunité, surtout pour les sujets qui nous intéressent ici. Il est important de le saluer. Mm. Il n'y a pas simplement que des brebis galeuses qu'on peut dénoncer. L'action immense que ces juges courageux font, parce que nous les soutenons, nous organisons des audiences foraines, parce que souvent le lieu du crime se trouve très très loin des tribunaux. Et donc la justice fait un travail énorme. Dans ce sens, je tenais à le saluer. Il y a beaucoup de cas emblématiques, mais au-delà de ces cas emblématiques-là, il y a plusieurs situations, je ne peux pas tout décliner ici, où même lorsque les éléments indélicats parmi la FRDC ou la PNC, ou alors les Wazalendo sont suspectés, eh bien la justice sévit. Je crois que c'est important de souligner cela. Ça, c'est quelque chose à encourager. Il faut envoyer un signal fort, quel que soit la position de la personne, que nul n'est au-dessus de la loi, et que pour cela, les victimes doivent se sentir appartenir à une société qui n'est pas aveugle à leur souffrance et qui peut leur offrir une seconde chance de vivre. Donc je crois que c'est ce que je pourrais dire dans ce cadre-là. Autre chose, et je vais m'en arrêter là pour que Maître Gisèle aussi complète cela. Une structure comme le FONAREV fait énormément dans ce cadre-là. Le FONAREV, comme elle l'a si bien dit, c'est malheureusement le triste sort, surtout les enfants nés du viol. C'est le triste sort de plusieurs. Donner un acte de naissance, ce qui est le premier point pour que la personne humaine ait une identité légale, elle puisse ouvrir, comme vous et moi, un compte bancaire. Elle puisse aujourd'hui avoir un téléphone portable, il faut avoir une identité. Le FONAREV évolue et investit dans ce sens. Je crois que c'est quelque chose qui est assez important. Donc il y a une série d'actions collectives assez positives qui vont dans le bon sens. Je conviens que c'est minime par rapport à la gravité de la situation. Mais c'est un très bon départ. C'est ça que je tenais à souligner.
Merci. Maître Gisèle Kapinga, comment faire, quelles mesures concrètes prendre pour que les enfants issus du viol ne soient pas stigmatisés?
Oui, j'aimerais rebondir sur ce que venait de dire directeur Patrice concernant la déclaration des enfants. De ce côté-là, je pense, c'est vrai, il y a le travail qui est fait par FONAREV. La loi est claire. Toute naissance, donc le code de la famille, il y a l'article 116, 117, toute naissance survenue sur le sol congolais doit être déclarée. Et quand la déclaration est faite dans les 90 jours, c'est sans frais. Et ce n'est pas seulement le père ou la mère qui doit le faire. Même un proche, un enfant, même un enfant, je sors là, je trouve un bébé de 2 semaines jeté. Même moi, donc toute personne, peut prendre cet enfant et l'amener devant l'officier de l'état civil pour le déclarer. C'est vrai qu'il fera un PV, il va délivrer un acte provisoire en entendant peut-être qu'un jour les parents se manifestent. Mais moi, je pense que c'est déjà un pas pour ces cas des enfants nés du viol. Donc, on peut les déclarer. Si la mère a honte, un proche parent peut les faire et tout et tout. C'est vrai, pour ces enfants, moi, je pense, à part ces codes de la famille, les plaidoyers que nous devons faire actuellement, c'est pour qu'il y ait une loi ou des lois spécifiques s'agissant de ces enfants. Parce qu'il faut les encadrer. Moi, je vis au site Kivu, dans un centre où on encadre les femmes violées avec leurs enfants. Et dans ces quartiers-là, ils sont stigmatisés. Donc, quand ils entrent dans l'enclos, on sait, il y a même un nom, j'ai oublié, il y a une appellation spécifique pour ces enfants-là ici du viol. Alors moi je me dis c'est bien, on les encadre, mais ils sont stigmatisés davantage. Alors moi je pense qu'il faut qu'il y ait des lois spécifiques. Comment encadrer ces enfants?
Quelle loi par exemple?
Souvent les enfants ici du viol sont abandonnés, donc l'État peut recueillir ses enfants. On peut les mettre dans
les
familles d'accueil. Donc, les mélanger dans d'autres enfants pour qu'on ne les cible pas, pour qu'on ne les marginalise pas, pour qu'ils ne soient pas pointés des doigts. Et j'aimerais aussi, concernant la protection des femmes, c'est vrai, moi je pense que les femmes doivent. On venait de parler de la sensibilisation. Les femmes doivent apprendre à dénoncer.
Souvent, elles se taisent.
Souvent, elles se taisent par honte. Ben moi, je me dis, moi, je suis violée, je n'aurai pas honte. C'est la personne qui m'a violée plutôt qui doit avoir honte. Donc, elles doivent dénoncer. Les femmes doivent refuser les arrangements à l'amiable parce que ça s'est fait. Donc, on t'a violée, ça ne fait rien. On donne une chèvre, on donne une vache et puis... Moi, je pense qu'elles doivent refuser.
Et le bourreau va reproduire ça.
Oui, il va reproduire. Donc, les femmes, il y a des associations de femmes qui peuvent les aider. Il y a la CNDH, il y a les BCNDH. Donc, il y a beaucoup de structures qui peuvent les accompagner si elles manifestent ces besoins-là de dénoncer. Aussi longtemps qu'elles ne nous dénonçons pas, nous sommes complices et nous encourageons nos bourreaux à continuer à nous violer. Et il y a M. Omar qui a parlé des victimes, des femmes qui sont grosses et qui peuvent avorter. C'est vrai, la RDC a ratifié et publié le protocole de Maputo au journal officiel. Donc, le protocole de Maputo fait partie de l'arsenal juridique. C'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes actuellement pour son application à cause des convictions religieuses, à cause de nos mentalités coutumières et tout. Mais nous avons mené des enquêtes sur l'infraction d'avortement dans plusieurs juridictions ici à Kinshasa, à La Chopo, avec l'appui des IPAS. Ces phénomènes, les avortements criminels ou clandestins, c'est un phénomène de société. C'est un cancer. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, même des mineurs qui ne sont pas informés, vont se faire avorter chez des charlatans. Et à la suite, ce sont des complications, c'est la mort. Alors, moi, je pense, j'ai aussi rencontré à Nitouri, dans les camps déplacés de Kigonze, une dizaine de filles de 10 à 16 ans qui ont été violées, qui étaient même des esclaves sexuels, qui sont tombées enceintes et qui ont accouché. Et après, il y a eu des complications telles que les filles. Donc, toutes avaient des fistules. Donc, une fille de 10 ans avec un bébé et un problème de fistule. Moi, je me dis, par exemple, pour ces filles-là, on pouvait bien faire application du protocole de Maputo parce que l'avenir de ces filles-là est sombre. Donc, ces filles-là n'ont plus d'avenir. Donc, moi, je pense, nous adoptons des lois. L'État doit prendre des mesures parce que les, ces avortements-là, selon les prescrits du protocole de Maputo, ne doivent pas se faire par n'importe qui ou n'importe où. Il faut des médecins et des prestataires formés.
Il faut que cela soit encadré.
Dans des centres agréés. Mais il faudra multiplier ces centres et informer la population, moi, je pense.
Merci, Maître Gisèle. Nous prenons deux autres auditeurs en ligne. Blaise Saïdi Atoubou nous appelle depuis Kisangani. Bonjour, Blaise Saïdi.
Bonjour, chère Jocelyne. Bonjour aux invités.
On vous écoute, voilà. Blaise
Madame
Saïdi.
Jocelyne, oui, je serai tellement trop bref. Toutefois, je dois commencer par remercier les invités et remercier également Maître Omar. Voilà, pour son intervention, sa contribution. Et de ma part, l'esclavage sexuel reste une tragédie humaine qui ternit l'image de notre pays et brise la vie de nombreuses femmes et filles. Malgré l'implication d'organisations comme les Nations Unies, la lutte contre ce phénomène exige davantage de volonté politique, de la justice et de protection réelle des victimes. La première question à poser aux invités, Madame Jocelyne, pourquoi il y a toujours la persistance de ces crimes dans différentes zones de la RDC, malgré les lois qui existent? La deuxième question, comment les communautés peuvent-elles contribuer à dénoncer et à prévenir ces crimes? Puisque je me rappelle seulement que la dame a parlé quelque chose ici qui m'a tellement tiqué, que lorsque on ne dénonce pas, on aime. Donc il fallait toujours dénoncer. Les femmes aiment cette histoire puisqu'elles ne veulent pas dénoncer. Elles ne veulent pas dénoncer. Et pour terminer, pour cette série de questions, la communauté internationale fait-elle suffisamment pour soutenir la RDC dans cette lutte? Je me limite à ce niveau-là pour laisser place à d'autres personnes, chère madame.
Merci, merci Blaise Saïdi pour votre intervention. On va prendre la question de Gaston Gandou. Bonjour. Gaston Gandou, bonjour. Vous nous appelez de Kinshasa. Est-ce qu'il est en ligne? On va le rappeler le temps que nos invités répondent à Blaise Saïdi. Madame Maître Gisèle, Monsieur Patrice, pourquoi cette persistance des crimes malgré les lois et toutes les initiatives sur terrain? Monsieur Patrice.
C'est la bonne question. Quand on échange entre avec la communauté des bailleurs de fonds, la même question est posée autrement. Quand on regarde le volume de tous les financements.
Oui, vous allez répondre, mais oui, Gaston Gandou okay. Est de retour. On va le prendre avant vos réponses. Gaston Gandou, bonjour, rebonjour.
Rebonjour madame, salut aussi les invités. Bon, je pense que nous parlons de l'esclavage sexuel. Juridiquement, c'est un terme... C'est une notion différente d'autres violences sexuelles. Alors, si vous voulez avoir une idée claire sur cette infraction, si je peux même dire ces crimes, référez-vous aux crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale actuellement que nous sommes membres. Vous en rendrez compte, il y a un document qu'on appelle les éléments des crimes. Vous verrez toute la définition détaillée de ces crimes ici, de cet élément des crimes qui rentre dans les cadres des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, génocide, qu'est-ce que j'ai encore, je peux même ajouter agression. Alors, sur les plans locaux ici, on a même, à part ces textes-là qui nous régissent aussi, bien qu'il n'y a pas une loi mise en œuvre sur place jusqu'à aujourd'hui, mais nous avons le code pénal militaire qui régit aussi l'esclavage sexuel, c'est l'effet de contraindre, des fois aussi c'est volontaire, contraindre des gens à vivre de la sexualité. Donc, de votre sexualité, vous vivez. Tous les autres dépendent aussi de votre sexualité. Pour cela, vous verrez aujourd'hui la prostitution. Parce que moi, je ne fais pas seulement allusion aux crimes de guerre, des trucs qui sont dans des coins où il y a la guerre, où les gens sont soumis à de la sexualité forcée, mais aussi dans d'autres coins ici où on voit nos jeunes filles, hein, nos mamans vivre de la prostitution, nos vivre de leur sexe. Lorsque nous nous préparons pour aller vendre notre force physique, notre savoir-faire sur le plan physique, sur le plan intellectuel, nous les hommes, nos sœurs, nos mamans se préparent pour aller vendre leur sexe. Vous voyez, ça c'est vraiment, à mon avis, l'esclavagisme que nous sommes en train de faire allusion ici. Et d'autres voyages même, vous les verrez à l'étranger, ils peuvent vivre que de leur sexualité. Et il y a même des hommes aujourd'hui.
Mais par rapport à cette campagne, Gaston Gandou, quelles sont vos questions à nos invités?
Bon, d'abord, nous sommes tous sont nés de l'issue de ce comportement qualifié de sexualité ou de l'esclavage. Nous sommes tous majorité les enfants non désirables. C'est parce que il y avait un besoin, on est allé, on a couru derrière quelqu'un et l'enfant est né, soit on vous avait forcé de le faire, comme dans les cas de conflit, l'enfant est né. Et ces enfants-là sont parmi nous aujourd'hui, ils sont pris en charge, comme on l'a dit, mais peut-être il faut renforcer la prise en charge, si je peux même dire, les enfants. Mais s'il s'agit des victimes, s'ils sont réellement victimes dans le sens juridique du terme, moi, je pense qu'il y a les mécanismes juridiques qui sont là pour identifier qui est victime et comment réparer. Mais victime dans le sens que non, on voit les enfants nés non désirables remplir nos localités, nos cités. C'est pour ça que j'ai dit, ces enfants-là, vous tenez compte de tout cela. Il y a la pauvreté, il y a beaucoup de choses qui font que les gens vivent de leur sexualité aujourd'hui. Et tout cela, ça fait partie de l'esclavagisme, l'esclavage sexuel, que nous décrions qui est un crime. On prend en charge, je vous l'ai dit, non? Donc, dans chaque famille, on prend en charge dans tous les enfants. Et si c'est pas le cas, les enfants se débrouillent. Quand on a des enfants qui n'ont pas eu de famille anti, mais qui se sont débrouillés quand même à travers les ONG, des trucs qui sont encadrés aujourd'hui, qui sont devenus des gens. Il faut renforcer. Mais dans la majorité des cas, nous sommes tous fruits de nos mamans souffrent.
La majorité des cas. Gaston Gandou, bonjour, merci. Ah, oui. Merci pour votre contribution à cette émission. Monsieur Patrice, vous étiez en train de répondre à la préoccupation de Blaise Saïdi, qui voulait savoir pourquoi ces crimes persistaient sur terrain malgré les lois, malgré toutes les initiatives et actions sur terrain.
Donc, je disais que dans d'autres contextes, on regarde la même question, la même interrogation sur un plan purement financier, pour se dire, malgré tout ce qu'on a investi, pourquoi ça continue? Ça peut conduire, je crois bien ce que Saïdi veut nous envoyer, à un découragement. Mais moi, je voudrais dire à tous les auditeurs, y compris à celui qui a posé la question, quelle est l'alternative? Qu'est-ce que nous disons aux victimes? On est fatigué?
On ne peut pas s'arrêter.
On ne devrait pas. C'est une priorité. Il faut investir aussi longtemps. Moi, je souhaiterais plutôt que nous prenions tous le pari que pendant notre génération, nous avons écrit l'histoire, que ces séances de violence-là n'appartiennent plus ou bien n'est pas l'héritage que nous léguons aux futures générations. C'est un engagement d'abord qui doit être personnel. C'est un engagement qui doit être institutionnel. Il a très bien dit, j'ai compris que les deux auditeurs, en fait, sont des juristes qui, ils ont posé des questions en donnant des réponses en même temps. Mais pour nous inviter à ce que tout le monde participe à cela. Pour moi, rien ne devrait justifier un quelconque découragement. Ou bien, on va commencer à dire, non, mais écoute, il y a trop longtemps. Donc, on le garde. Non, je suis pas en faveur de cela. Le second, et vous avez bien fait de... Je conviens avec vous. Je crois que ce que le BCNUDH a essayé de faire, ce n'est pas d'élargir trop le débat sur les questions de prostitution et consorts. C'est pas dit que c'est... On peut en parler autrement. Mais la situation affreuse que ces femmes... prises dans l'étau de conflits armés que n'ont pas choisi, ne peut pas être passée en pertes et profits dans un débat général sur la morale. Ainsi, ce n'est pas ça que nous parlons. Certainement, on est dans des positions différentes. Moi, je parle, j'interagis, mes collègues interagissent avec des victimes. Pour nous, c'est du réel. Et elles interpellent la société. On ne se contente pas de faire un simple rapport. Nous voulons, parce que quand elles parlent, bravant les menaces, elles parlent au nom de plusieurs milliers d'autres femmes qui peut-être n'auront jamais l'opportunité de porter ça sur la place. Et je pense qu'il y a une solution à cela. Cette solution-là, ce sont ces séries de recommandations qu'on fait pour se dire, écoutez, à la fin, c'est nous, société, ensemble. Les Nations Unies viennent en appui, chacun jouant son rôle, qui devons apporter une réponse beaucoup plus holistique et définitive à cette situation. Et je termine pour dire... nous avons une grosse équation, celle liée aux enfants issus de viols. En fait, on les stigmatise quand on les présente comme des enfants issus de viols. Nous oublions très rapidement que personne ne reste enfant. Moi, j'étais enfant comme vous. Aujourd'hui, nous sommes des adultes. Et bien donc, ça veut dire que pendant toute leur vie, ils seront présentés comme tels. Est-ce que certains collègues, c'est une réflexion qu'on doit pousser. Certains pensent qu'on doit les présenter comme des enfants de la résilience. Quel que soit le terme, l'idée derrière tout cela, c'est que personne ne porte le stigma d'une contradiction sociale. Le viol n'est pas acceptable. Il ne faut pas que quelqu'un soit celui-là qui emporte le fardeau et la croix pour le reste de sa vie. Parce que quand il va voir ses enfants, qu'est-ce qu'il va leur dire ? C'est ça, en fait. C'est un double rejet. Et donc, l'émission est très courte, mais je voulais simplement dire que nous, nous avons lancé cette campagne sur jusqu'au 19 juin. Et ils nous ont donné des pistes, des Kananga, Kinshasa, partout, à travers ce que vous faites à Radio Okapi, pour que le débat continue. Mais qu'il ne soit pas simplement une palabre, c'est-à-dire que ce ne soit pas simplement un débat. Que chacun d'entre nous fasse quelque chose. On doit changer le regard qu'on a, qu'on ne mette pas de côté comme des gens qui sont atteints d'une lèpre ou bien de quelque chose d'autre. Ces enfants-là, ils sont victimes d'un fait de société. Il est important que chacun d'entre nous puisse. Donc on doit continuer. Okapi, vous faites quelque chose déjà parce que vous nous donnez une antenne.
Merci.
Pour permettre d'échanger sur ce sujet. Mais que ça se démultiplie un peu partout, c'est sûr que chacun à son niveau, les institutions à leur niveau, en faisant la somme de nos interventions, vont certainement faire reculer ce fléau de société.
Maître Gisèle Kapinga, et quel rôle la CNDH joue, peut ou peut jouer pour soutenir cette campagne lancée par le BCNUDH?
Nous allons faire la vulgarisation, nous allons parler de ces phénomènes. Nous allons présenter les résultats de nos enquêtes et aussi donner les recommandations. Comme je venais de vous dire, après chaque fois après nos enquêtes, il y a des recommandations et nous faisons des plaidoyers auprès des décideurs pour que cessent ces crimes de violence sexuelle, esclavage sexuel, etc. Donc nous recevons aussi des plaintes à la CNDH, parce que nous jouons un rôle quasi judiciaire. Nous recevons des plaintes et nous orientons, nous accompagnons les victimes pour qu'ils puissent obtenir réparation. Et nous allons continuer à veiller, donc à veiller sur le respect des droits de ces femmes dans des camps de déplacés, de ces femmes dans les régions où se déroulent ces conflits. Je vais vous dire, malgré que les Goma et Bukavu sont occupés, mais nous avons, l'année passée, vers la fin, nous avons organisé, nous avons collecté. Nous avons collecté, donc nous avons fait une enquête sur les VBG. Et on a déjà même présenté des résultats. Alors, donc nous allons continuer à faire notre travail, parce que nous sommes une institution d'appui à la démocratie, donc nous allons continuer à faire notre travail pour que ces femmes, pour que ces enfants puissent recouvrer leurs droits, pour qu'ils puissent être considérés et pour qu'ils puissent obtenir justice, surtout les femmes victimes. Je voulais juste épingler un peu réagir par rapport à ce que venait de nous dire Gaston sur la prostitution. C'est vrai, la prostitution, quand c'est fait normalement, c'est quelqu'un qui opte ou qui consent à faire la prostitution. Mais attention, par exemple, dans les zones en conflit, nous avons trouvé un phénomène au Nord Kivu qu'on appelle sexe de survie. Ces phénomènes-là, ce sont des femmes qui, sans les vouloir, mais par la force des choses, sont amenées à se prostituer. Parce qu'elles ont 2, 3, 4, 5 enfants qu'elles doivent nourrir. Mais elles sont dans une pauvreté sans nom, dans une misère terrible. Alors elles n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps pour trouver quelque chose et nourrir leurs enfants. C'est aussi une forme de violence. Donc on ne doit pas condamner ces femmes-là. Et on a trouvé ces phénomènes en Ituri aussi. Et ces femmes-là, on les appelle des femmes décent. C'est-à-dire, avec 200 francs, vous pouvez aller avec elles. Et puis, c'est juste pour la survie. Mmh. Donc on a appelé ces phénomènes sexe de survie. Ce n'est pas fait sciemment. C'est par la force des choses.
Et pour conclure cette émission, si vous aviez chacun cité une priorité absolue pour mettre fin à l'esclavage sexuel en RDC, monsieur Patrice, maître Gisèle, en quelques secondes pour conclure.
Je laisse.
En tout cas, moi, je martèle sur l'impunité. Donc, pour mettre fin à ces phénomènes, on doit cesser avec l'impunité.
Monsieur Patrice.
Et moi, je dis que c'est une question qui nous interpelle tous. Ne regardons pas l'immensité de la charge, mais la différence que chacun d'entre nous peut faire. Les droits humains, c'est nos essentiels de chaque jour et je crois que chacun peut y contribuer. Je voudrais vous remercier.
Merci à vous d'être venu dans ces studios pour parler de cette campagne contre l'esclavage sexuel lancée par le BCNUDH et soutenue par la CNDH. Merci d'avoir participé à cette émission, chers auditeurs, à travers vos questions. Restez à l'écoute de la fréquence de la paix. À très bientôt.
Merci.